Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Estrie d'Initiative.
Estrie d'Initiative pour un podcast souhaitant mettre en lumière les initiatives de son territoire à la rencontre des acteurs de changement en développement durable. Depuis ces dernières années, le Canada et plus particulièrement le Québec fait de la prévention envers le gaspillage l'une de ses préoccupations majeures. On note la création d'un conseil zéro déchet qui a réuni entre autres 6 des plus grandes régions métropolitaines du Canada, de même que des chefs d'entreprise et des gouvernements clés, des universités et des organismes sans but lucratif, dans un appel à l'action d'envergure nationale et un changement systémique pour s'attaquer à la génération des déchets. Cette préoccupation est aussi visible au travers du plan Objectif zéro déchet en 2030 concernant la ville de Montréal. Selon la plus récente enquête de Statistique Canada, le Québec a aussi éliminé, en moyenne, 385 kg de déchets par personne en 2018. Dans ce cadre, nous rencontrons aujourd'hui le comité zéro déchet de l'Université de Sherbrooke.
Merci beaucoup Estelle pour la petite introduction. Donc, au micro, Harold, votre animateur de toujours pour le podcast L'Estrie d'Initiative. Aujourd'hui, on accueille Floriane Daigneault et Amy Babineau qui viennent du comité zéro déchet. Donc, très content de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre comité, qu'est-ce qu'il fait, etc.?
Le comité zéro déchet, ça le dit un petit peu dans son nom. Là, ça vise à réduire au maximum nos déchets. Mais on vise un petit peu plus loin que ça, vu que c'est très précis, réduire les déchets, mais on vise aussi à réduire en général les émissions de gaz à effet de serre. Fait qu'on a fait dans ces temps-ci des projets plus généraux. Puis c'est un petit peu ça, là.
Très bien décrit!
Comment, vous avez parlé d'émissions de gaz à effet de serre, comment, c'est quoi les activités que vous faites pour réduire ces émissions-là?
La dernière session, on s'est concentré, on n'est pas beaucoup de membres dans le comité, fait qu'on s'est concentré à organiser un projet d'échange de vêtements, fait que ça a été assez complexe à organiser, fait qu'on s'est concentré là-dessus. Puis là, on vise en refaire un autre peut-être cette session-ci ou peut-être des collectes de déchets dans la ville.
OK, super. Ben, en effet, je pense que c'est des activités assez pertinentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que entre autres, la production de vêtements, c'est extrêmement polluant, puis c'est une bonne idée de réduire la consommation de ces produits-là. Comment est-ce que vous définiriez le zéro déchet? C'est quoi pour vous?
Le zéro déchet, je pense que le but du comité, c'est d'aller réduire le plus possible. Mettons, on garde en tête les 5 R, là, pas mal. Fait que c'est recycler, réduire, réutiliser.
Redonner à la terre, oui.
Redonner à la terre, bon.
Ça dépend, il y a toutes sortes de
conventions. Oui, il y a plein de façons, ouais. Là, mais c'est ça, on tourne pas mal autour de ça. Puis en gros, on vise pas à être parfaite, puis on vise surtout pas à... j'ai juste schémé en tête, là, mais on veut pas que les gens se sentent mal de faire ou de ne pas faire une action. Mmh. On essaie tout le temps d'y aller dans la bienveillance pour que ça aille de l'air plus attrayant, finalement, d'adopter ou de pas adopter un comportement, finalement, dans ce but-là. Là.
Parce qu'autrement, les gens seraient comme un peu intimidés, j'imagine.
Intimidés, puis quand tu te fais critiquer, est-ce que ça te donne vraiment le goût d'aller de l'avant, toi aussi, là-dedans?
Non, pas tout le temps. Je suis vraiment d'accord. Puis en fait, je pense qu'une personne va toujours être moins enclin à adopter un certain mouvement ou un certain mode de vie si dès le départ, on pointe ce qu'elle fait de mal. Mm-hmm. C'est comme vraiment un mauvais pas de départ. Puis tu te sens coupable. Tu dis, je suis pas capable de faire ce qu'on me demande. Donc, je trouve ça très bien que vous ayez cette approche-là. C'est super, super intéressant. Ouais.
Je suis d'accord. Et puis, vous abordez justement le fait que vous le faites à l'Université de Sherbrooke, mais que vous vouliez aussi l'étendre à la ville de Sherbrooke, justement?
Sans nécessairement étendre le projet, on pense que notre contenu il est quand même accessible et qu'il est pertinent pour pas seulement les étudiants, mais pour la population en général. à Sherbrooke ou même ailleurs, tu sais. Fait que oui, ça pourrait s'étendre à des résidents sherbrookois.
Nos événements aussi sont ouverts à tous.
Oui, OK, génial. Donc, vous avez par exemple sur vos événements des personnes qui ne viennent pas nécessairement de la communauté étudiante.
Ouais. Mm. OK, c'est vraiment cool. Puis, ça a été quoi votre feedback jusqu'à maintenant? Est-ce que vous trouvez que autant les étudiants que les gens de la ville sont intéressés par ce que vous faites ou c'est assez partagé?
Oui, bien, pour l'échange de vêtements à la session passée, je pense que pas mal tous les participants nous ont demandé si on en organisait un cette session-ci.
Ah, ouais. Ah, c'était très populaire quand même.
Oui, vraiment.
Ah, c'est cool. Super.
Il a fallu qu'on limite les inscriptions.
Est-ce que les gens sont à la recherche de ça? Est-ce que vous trouvez que cette activité-là aurait lieu d'être plus souvent effectuée? Est-ce que les gens se disent « j'ai de la misère à aller magasiner dans des friperies ou c'est pas suffisamment proche de chez moi? » Est-ce que vous avez reçu ce genre de commentaires-là de la part des gens?
J'ai pas entendu nécessairement de commentaires, mais je pense que les friperies, ça, c'est pas attrayant pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés face aux friperies. Fait que je pense qu'un échange de vêtements, c'est la bonne occasion de comme découvrir un peu ce milieu-là.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'était le fun parce qu'on a pu échanger aussi avec, en général, sur le zéro déchet.
Mm-hmm. Puis, tu sais, les gens, en même temps, c'est qu'ils pouvaient voir, OK, c'est telle personne qui a amené des vêtements. Mm-hmm. Tu sais, on a peut-être l'idée de, ça, c'est la place des pauvres, les friperies, puis des choses comme ça, les vêtements sont sales, l'espèce de peur qu'il y aurait des bébites dans le linge. Mais là, tu vois, le monde, c'est du monde entre guillemets, qui ont de l'allure, là, entre gros guillemets. Puis tu vois que, tout le monde peut participer à ça, puis moi aussi. Puis, tu sais, puis aussi, j'entendais beaucoup mes amis, mais les autres personnes aussi présentes qui me disaient, tu sais, qui, dans le fond, qui avaient le vouloir de pas amener juste le vieux chandail dans le fond de leur garde-robe qu'ils aiment vraiment plus parce que ça date de la mode des années 2000. Ils amenaient du linge qu'ils aimaient encore, ils trouvaient encore beau, mais ils portaient plus. Puis là, ça fait un renouvellement dans leur garde-robe, puis ça fait plaisir à tout le monde, finalement.
OK. Ah, super. Il y a pas juste des vieux vêtements des années 70.
Oui, c'est ça.
OK. Ah, c'est vraiment super. Puis je trouve ça intéressant ce que tu mentionnais par rapport aux préjugés que les gens avaient lorsqu'ils vont dans ces magasins-là. Ils ont peur un peu de trouver des bibis dans leur linge, mais en même temps, je pense qu'on a un peu peur de ça pour rien, puis tu laves à la maison, puis il n'y a pas vraiment de problème. Mm-hmm. Je pense que vous avez réussi un peu à rendre les gens plus confortables avec l'achat de ces vêtements-là en voyant qui est-ce qui les apportait. C'est vraiment intéressant. On a parlé un peu des 5 heures tout à l'heure, donc il y avait refusé, réduire, réutiliser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un ordre logique à ces 5 heures-là? Est-ce qu'il y en a qui sont plus à prioriser que d'autres heures?
Mais pour ma part, je pense que réduire, c'est un petit peu la base, parce que le déchet qualité, c'est plus qu'on la citation, le déchet que tu ne crées pas est le plus facile à traiter. Mais je pense que ça en dit long sur le fait que si tu le fais, on surconsomme beaucoup aussi, là. Je pense que ça rejoint beaucoup la surconsommation.
Ouais, c'est certain. Puis je pense que, en fait, dès que tu n'achètes pas quelque chose, tu n'as pas besoin de fabriquer ou de concevoir un procédé pour recycler ce produit-là. T'enlèves beaucoup de complexité au problème, en fait. Puis, en amont de ça, c'est pas vrai que recycler, dans le fond, ça a zéro émission ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Toute l'énergie qui est, nécessaire au recyclage du produit, de la matière, ou si c'est pas le recyclage, dans le fond, qui est parfait. Là, on sait qu'au Québec, ici, on n'a pas un taux de recyclage qui est excellent. On parle d'à peu près 52% là, qui, dans le fond, les matières résiduelles qui proviennent des résidences, des entreprises, c'est 52%. Donc, c'est pas énorme. Là. Puis, dans les meilleures performances au monde, là, c'est l'Allemagne qui est vraiment au top. Eux, ils ont 56,1%. C'est 4,1% de plus que nous, tu sais, puis ils ont déjà des réglementations assez strictes en matière de recyclage. Puis ce que je trouve intéressant déjà dans leur mentalité, c'est de se dire on va encourager les compagnies à avoir moins d'emballages dès le départ, donc des emballages plus éco-responsables, quitte à ce qu'il n'y en ait pas, en fait, tout simplement. Donc,
oui, on voit que ça va dans la source, justement.
Ouais,
comme
c'est
tu
ça.
Le dis, au lieu de justement aller en aval et se rendre compte justement qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait.
C'est
par
ça.
Exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, je m'étais justement renseignée, par exemple, c'était en Slovénie, capitale de la Slovénie, donc qui était élue la première en Europe à lancer un défi zéro déchet à ses habitants, qui réduisait donc la production de 268 kilos par an. Depuis 2004, donc c'est chouette.
C'est quand même cool.
c'est quand même chouette, oui. Et ouais. Est-ce que, donc, on parlait de modèle de déchets, on comparait d'un point de vue des pays, est-ce que vous connaissez, par exemple, un petit peu le modèle de gestion des déchets du Canada ou plus intimement du Québec ou...
Moi, je ne le connais pas beaucoup.
Mais pas tant que ça. On dirait qu'à chaque fois que je vois des infos passer, c'est plus « c'est vraiment pas optimal ». Mais à part de ça, plus précisément, pas tant. C'est sûr que, mettons, on voit des trucs passer de ça peut aider les personnes qui sont dans les centres de tri. Fait que ça, c'est des trucs qu'on essaye de mettre de l'avant sur notre page Instagram et Facebook, d'ailleurs. Mais à part de ça, honnêtement, je suis pas calée dans le sujet.
Je peux rajouter, dans le fond, j'ai un peu de connaissances là-dessus, là, mais ici au Québec, dans le fond, il y a diverses problématiques qui sont présentes dans les centres de tri, en fait. Puis, par exemple, les contenants de verre, eux, en fait, quand on les envoie dans les centres de tri, souvent, ils se brisent, ils se contaminent. Donc, une des politiques, une des stratégies, dans le fond, de Recycle Québec, qui est comme la grosse société d'État qui gère toutes les matières résiduelles ici au Québec, en fait, c'est de, justement, vous en avez sûrement entendu parler, mais d'avoir, en fait... des places où est-ce qu'on peut prendre directement les contenants en verre puis les apporter dans les centres de tri. Sinon, on parle aussi de la matière organique. Donc, ça, en fond, la matière organique, quand on l'envoie dans les... en fait, quand on l'envoie aux poubelles, ben ça, c'est quand même une problématique parce que lorsque ça se retrouve dans les centres d'enfouissement, ben ça fait des conditions anaérobiques là, qui font en sorte que la matière organique va produire extrêmement... ben en fait, une grande quantité de méthane. Puis ça, ben le méthane... c'est quand même un gaz qui est assez nocif, donc ça a un potentiel de réchauffement climatique qui est 21 fois supérieur au CO2. Donc déjà là, le gouvernement du Québec mise vraiment sur faire en sorte qu'il y ait le moins de matière organique possible dans les centres d'enfouissement où est-ce qu'ils n'auront pas assez d'oxygène pour avoir moins ces conditions anaérobiques-là qui vont produire beaucoup de méthane. Donc ça, c'est le genre d'enjeu là, qu'on trouve beaucoup là, dans la gestion des matières résiduelles, dans les centres de tri, etc. C'est le genre de choses qu'on voit beaucoup. Puis, c'est des beaux projets, je trouve. Sauf que si on réduisait nos déchets dès le départ, avant ces centres de tri-là, on n'aurait pas à se compliquer autant la tête là, avec de telles problématiques.
Parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui est un petit peu problématique en ce moment, c'est justement le fait que ces centres d'enfouissement arrivent plus ou moins à saturation, notamment à Montréal, je crois. C'est ce que j'ai lu d'après un document justement de la presse.
C'est possible. Je pourrais pas commenter là-dessus, mais en fait, ça ne m'étonnerait pas. Je veux dire, avec la production de déchets qui est croissante, c'est certain que on doit voir l'expansion de différents sites d'enfouissement. Donc ça, c'est une problématique en soi. Là.
Région urbaine avec une forte densité, certainement.
C'est ça, exactement. Puis il y a une limite à quel point on peut compresser les matières qui se retrouvent là.
Mais je pense que c'est pour ça aussi de changer notre vision par rapport aux déchets. T'sais, de voir, mettons, l'emballage de plastique que tu te dis hey, « je vais le mettre dans le recyclage, pas grave. » Mais de le voir comme toutes les matières que ça a produit et l'énergie que ça a eu.
Exactement.
Que tu as besoin pour le produire. Puis tu sais, de voir aussi, comme tu as dit, le recyclage, que ça prend encore de l'énergie. Puis après, tu sais, qu'ils le transportent pour le réutiliser. Fait que de voir tout ce cercle-là d'énergie, puis d'eau, puis de personnes nécessaires.
Dans la conception même de ces produits, j'avais donc un exemple au Japon où, par exemple, chaque objet qui est mis en rayon, donc les légumes ont compris, sont individuellement emballés dans un sac plastique, reglacés dans un sac avant d'être ajoutés au reste des achats. Donc ça menait, selon mon étude, que chaque Japonais utilisait au moins 300 sacs par an. Et qui fait justement que, forcément, je pense que d'où la nécessité de justement, en amont, peut-être opter pour des politiques, peut-être plus ou moins d'un point de vue d'un pays. Ouais. Je veux dire, je ne m'y connais pas assez sur le système québécois pour savoir justement qu'est-ce qu'ils priorisent dans ce milieu-là, mais je pense que traiter en amont serait peut-être davantage une... pour être vu comme une solution.
C'est une quantité énorme de sacs de plastique.
C'est ça, c'est cela. Et
ça m'impressionne.
C'est une quantité énorme et peut-être que justement, certains gouvernements, je n'ai pas d'exemple à l'appui là particulièrement, mais qui pourrait justement miser sur le fait de, comme tu disais, l'exemple allemand de d'avoir justement moins de sacs en plastique en un mot quand tu achètes en supermarché.
En fait, je pense qu'ils taxent au poids du produit, en fait, tout dépendant, je veux dire, ça serait vraiment au détriment des compagnies qui ont des produits très lourds, là, mais dans le fond, le poids prend en compte l'emballage, puis tu peux avoir, dans le fond, une réduction de ton prix.
Bien évidemment.
Avec le poids de l'emballage. Est-ce que quand... dans votre optique de zéro déchet, est-ce que vous prenez en compte le gaspillage alimentaire?
Mm-hmm. Ouais. Ouais, on en parle beaucoup dans ces dossiers.
Ouais, quand même!
Ouais. Ouais. OK.
Mais c'est ça, en fait, tu sais, mettons, on est le comité zéro déchet, mais on réalise que tout est dans tout le, tu sais, ça va avec le minimalisme, avec le végétarisme, avec comme plein d'autres principes connexes. Puis on trouve ça difficile même de tout le temps catégoriser, fait que c'est pas rare qu'on parle pas juste des déchets en tant que tels, puis on parle de d'autres affaires qui sont en lien, puis que dans notre tête, ça a tellement tout du sens, puis ça s'imbrique ensemble, là, finalement, dans notre vision de...
Ouais, en effet. C'est vrai. Je veux dire, juste ici, nous autres, en fait, on est deux personnes qui sont chez Campus Durable, en fait, qui est le comité, en fait, qui essaie d'apporter le plus de collaboration entre les différents comités de développement durable, puis plus on travaille là-dedans, plus on se rend compte que c'est interconnecté un peu.
C'est une perspective, oui, systémique qu'on doit avoir, parce que généralement, nous, quand on travaille, que ce soit Rouge Campus ou justement Zéro Déchet au Frigo, généralement, c'est souvent des connexions qu'on essaie de donner. Et puis de la même façon que lorsque vous travaillez, vous devez certainement être souvent en lien avec les autres comités, ou je veux dire que vous abordez aussi les thématiques qu'ils abordent, etc.
Ouais.
Et vous effectuez des fois des actions qui sont interconnectées avec... avec justement les autres comités ou
des collaborations? Honnêtement, on n'a pas fait de collaboration réfléchie et prévue. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas... Mettons qu'on fait une recette, puis ça donne qui est végétarienne, puis ça promouvoit nos valeurs de zéro déchet et tout, ben on n'a pas nécessairement tout le temps été voir l'asso VG de l'UDS pour leur dire « Hey, salut, on va faire ça, on vous avertit d'avance, mais tant qu'à faire, on voit le lien, on va les plugger, puis ça va nous faire plaisir, là, tu sais. » Fait que...
Puis on
le
partage souvent leur contenu, là.
Mm-hmm.
C'est
ouais.
Bon, des fois, faire...
C'est vrai. Ça les encourage.
Oui.
Mm-hmm.
Faut pas se sentir mal, en fait.
Ah non, oui, vous avez raison.
On fait ce qu'on peut, puis on est tellement dans le jus avec tout ça, on essaie le plus de respecter nos convictions, puis de travailler fort sur ce qui est important pour notre comité. Donc, je veux dire, allez-y avec ce qui passe, là, puis c'est bien parfait.
Mm-hmm.
Est-ce que vous avez entendu parler un peu de la baisse de popularité des épiceries zéro déchet avec la pandémie?
J'ai vu ça passer un petit peu pour le silo, puis comme quand ils allaient fermer leur deuxième succursale.
Ah oui, c'est celle à Rockforest ou celle à
Rockforest?
À Rockforest, ouais. Okay. Parce qu'on a une à King aussi. Là.
Mm-hmm.
Okay. Ah, c'est bien dommage, j'étais pas au courant de ça.
Je crois que oui, je sais pas si c'est officiel ou si c'est comme juste sur pause pour l'instant, mais je pense qu'ils parlaient aussi comme quoi les coûts avaient augmenté avec le taux d'inflation, puis que là, les gens, ça donne encore moins le goût d'aller dans les épiceries zéro déchet, je crois.
C'est un peu dommage.
Oui, vraiment.
Surtout, celui à Rockforest, j'y allais relativement souvent. Puis, c'est une belle épicerie quand même, là, je veux dire. Puis, là, ils ont une belle ambiance aussi. Là, c'est plus cordial un peu qu'un immense Provigo, là, selon moi.
Mais celle sur King, il y a vraiment le fun aussi.
Ouais, c'est vrai. Celle sur King, est super cool aussi.
Mais peut-être qu'il y a plus loin de chez toi, puis ça t'adonne moins. Là, ça,
ouais, c'est ça. Exactement.
Mais honnêtement, on dirait... Moi, aussitôt que la pandémie elle a été annoncée, on dirait que je l'ai vu venir à 1000 km/h.
Ouais.
Les gens, avant la pandémie, il y avait déjà peur que ça soit non salubre, que les gens, ils se mettent les mains dans les pots, puis que... Tu sais? Puis... Mais dans le fond, c'est que toutes les personnes qui vont là, généralement, ils ont à cœur le bien-être de la planète, donc généralement de tous. Puis leur but, c'est pas d'aller cracher dans la bouffe de tout le monde. Là, t'sais, ils font full attention.
C'est
ça. Mais il y a des, mais pas des mesures, là, mais comme il y a des outils qui sont là, puis les gens, ils comprennent que, OK, c'est comme ça qu'on l'utilise. Puis les personnes qui travaillent dans les épiceries zéro déchet, en tout cas, toutes celles que j'ai visitées, sont tellement gentils. Ça, on dirait que tu peux pas ne pas aller les voir. C'est une question de... OK, ouais. Ça, comment ça marche? Juste la semaine passée, je voulais me prendre du beurre de sésame, du tiny. Puis, en tout cas, c'était un gros contenant. Puis là, je voulais pas tout briser ou tout faire le bordel puis en mettre partout. Fait que j'ai été les voir. J'aurais dit, bon, comment ça marche? Je veux pas... Est-ce que vous aimez mieux le faire? Des fois, c'est ça aussi, là. Il y a certaines épiceries en vrac qui ils disent « Ah non, pour les savons, ça, c'est nous qui le fait parce que sinon, ça coule partout puis tout le monde en met ça. Partout. »
Si t'as allé sur le plancher, ça peut être glissant et très dangereux. Mm-hmm.
Ah oui, ça, c'est clair.
OK. Ah, ben, je suis vraiment d'accord. À chaque fois que j'étais dans ces épiceries-là, c'était toujours très cordial. Là, puis,
Les gens sont très bienveillants. Les gens sont très bienveillants, ouais, je trouve. Puis je pense qu'ils veulent aussi, comme vous dites, inciter les personnes à adopter leur mode sans forcément aller dans une trop grosse rigueur.
Ils sont conscients que dans le fond, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec, dans le fond, aller dans les épiceries zéro déchet, comment ça marche, etc. Mais c'est, eux sont là pour bien t'apprendre. Là. Puis je vais revenir en fait sur la question de la salubrité. En fait,
oui.
J'ai vu, je pense que c'était l'association zéro déchet de Destrie, en fait, qui mentionnait qu'il n'y a pas vraiment de problème avec question hygiène là, pour aller consommer en vrac, puis que les gens stressaient beaucoup. Donc, on sait maintenant que la COVID se propage beaucoup plus par les gouttelettes là, dans l'air et que le risque de contracter la COVID par les surfaces est assez faible. Puis en plus de ça, ben, on se lave beaucoup les mains. Parce que moi, à chaque fois que je vais aux épiceries sur des chiens, je me lave les mains. Il y a un lavabo pour ça. Donc, je veux dire, je pense pas que le COVID soit une raison pour se dire on ne doit plus aller dans ces épiceries-là. Elles ont besoin qu'on les encourage, qu'on favorise ce mode de vie-là. Puis, je trouve ça dommage pour les deux épiceries qui ont fermé récemment. Donc, on avait parlé de Slow plus tôt dans l'épisode, mais il y a deux épiceries qui ont fermé récemment. Donc, l'épicerie Avracadavrac et Origine épicerie locale, là, qui étaient des deux épiceries à Sherbrooke ici, puis qui ont dû fermer dans les derniers mois parce que il y a une grosse baisse de popularité là, à cause de la COVID. C'est un peu plate, là, mais je veux dire, c'est ça qui se passe présentement. Là, donc, c'est un peu dommage. Vas-y, Estelle.
Non, j'avais une question parce que donc, au cours de mes recherches, je m'étais renseignée et j'avais vu, je ne sais pas si vous connaissez, donc, qu'il y avait un festival zéro déchet à Montréal. Est-ce que vous en connaissiez l'existence ou...
Moi, oui, mais je ne suis jamais allée...
Oui, même chose pour moi.
D'accord. Non, parce que je m'étais renseignée, donc c'était porté par l'association québécoise, donc Zéro Déchet. Et je trouvais ça chouette de rendre une action qui peut paraître individuelle, comme par exemple le fait justement de réduire ses déchets, à une action qui soit collective, comme un festival, pour justement promouvoir ce type de pratique avec différents justement exposants, des conférences et des ateliers avec des professionnels. Je trouve que c'est une belle initiative justement de la ville de Montréal qui rentrait justement dans ces objectifs de plan de réduction de déchets.
C'est vraiment bien. Merci. Puis, je me demande, en fait, tu as parlé d'actions individuelles. Est-ce que vous entendez des fois dans votre entourage des gens qui disent « Ah ben, tout le monde sait que les actions individuelles, ça fait rien. » Tu sais,
tout le temps.
Tout le temps, ouais.
Au moins une fois par semaine, je pense. Puis, ben, ce que je réponds à ça souvent, c'est que c'est clair que si le gouvernement mettait en place des politiques, ça aurait beaucoup plus d'impact que juste moi, ce que je fais dans ma vie à tous les jours. Mais, tu sais, je crois au pouvoir d'achat, là, tu sais, comme acheter, c'est voter. Puis je pense qu'éventuellement, plus on montre c'est quoi nos valeurs en tant que société, plus on va se faire entendre, puis éventuellement, c'est que les compagnies veulent nous offrir c'est quoi qu'on veut acheter aussi.
Ouais.
Fait que, tu sais, on en a vu plein de campagnes de greenwashing et tout, mais avant le greenwashing, il y en a des compagnies qui écoutent, ah, OK, fait qu'ils veulent de quoi de plus. Mettons, niaiseux, là, des compagnies de brosses à dents, genre Colgate, pourraient commencer à sortir des brosses à dents en bambou. Mais oui, c'est pour leur image, mais là, ils produisent des brosses à dents en bambou. Fait qu'ils offrent une alternative qui est comme plus écolo, que tu peux composter et tout. Mais là, on parle de produits, là, c'est en tout cas un autre sujet.
Mais c'est un peu la même chose avec le gouvernement, tu sais, le gouvernement écoute beaucoup.
Oui, mais c'est ça. c'est là que je m'en allais.
Fait que si tout le monde se met à faire des actions individuellement, mais c'est là que ça devient.
Parce qu'une société, après, c'est l'addition de chaque action individuelle. Et c'est vrai que certains pays préfèrent justement la régulation, comme le cas de l'Allemagne, où justement tu disais qu'en soi, ils étaient plus en amont que le traitement en aval. Mais j'ai envie de dire que chaque citoyen puisse justement mener une action, ça aboutit aussi à des choses justement dans le futur et à des changements justement de société ou de... J'ai pas une assez bonne connaissance du Québec qu'on m'accorde parce que je suis française, mais en tout cas, c'est la façon dont vous pensez, c'est sûr que ce serait bien sur le long terme.
Je me demande aussi si le fait d'avoir des régulations, en fait, fait en sorte que des fois, ça s'applique pas à toutes les situations, dans le fond, puis que, je veux dire, par exemple, pour la vente d'un tel produit qui, lui, a besoin d'un tel emballage ou quoi que ce soit, tu sais. En fait, peut-être bien que ça ne s'applique pas à ce produit-là en particulier, mais le fait d'avoir une réglementation qui soit globale, ben c'est un peu contraignant pour tous. Puis tandis que quand tu dis « je veux faire un accès individuel qui est beaucoup plus applicable à mon cas », ben tu as une solution qui est spécifique et qui marche beaucoup mieux. Donc, je pense que ça va bien avec l'action individuelle. On est capable de faire de quoi qui est local, qui correspond bien à notre situation ici à Sherbrooke, puis ça peut être assez bénéfique dans la plupart des cas. Donc, je suis content d'entendre ça. J'ai de la misère un peu à convaincre mes amis du zéro déchet sur ça, genre, ah ouais, j'ai pas l'impression que ça a un impact significatif, mais je pense que c'est une question de respect aussi envers notre environnement. C'est pas parce que, dans le fond, le gouvernement ne nous l'oblige pas qu'on n'a pas à le faire. Puis, c'est vraiment une question de bienveillance, selon moi, envers cette nature qu'on essaie de protéger autant que possible.
Puis je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer l'impact qu'on a sur les autres. Là, je pense qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Mais tu sais, si nous, on le fait individuellement, puis tu prouves aux autres que c'est quand même facile là,
à prêcher par l'exemple, finalement. C'est
ça. Ouais, comme un peu, on a dit tantôt la vision de on ne veut pas imposer
les
trucs. C'est ça.
Mimétisme, les gens peuvent voir ce que vous faites et justement le réaliser chez eux.
Souvent, tu vois, les gens, ils viennent vers toi pour te poser des questions. Mm-hmm. Ils s'intéressent à ça.
Ouais.
Puis, ouais, je pense qu'individuellement...
Le nombre de fois que ça m'est arrivé, mettons, depuis que je suis végétarienne, qu'une de mes amies... Moi, j'en parle pas pour convaincre personne, mais mes amis, ils viennent puis ils me disent « Hey, Flo, la semaine passée, j'ai fait une sauce à spaghetti végé, c'était tellement bon! » Je suis comme « Ben, je suis contente pour toi, mais tu sais, t'as rien à me prouver, mais tant mieux, tu sais, si ça t'a inspiré, je sais pas trop. »
Tu dis que dans le fond, le fait que tu le dis aux autres que tu es végétarienne, mais ça peut les influencer un peu, là, sans les brusquer.
Mais honnêtement, juste ils voient mes lunchs, puis ils se disent « Ah, ben ça a l'air bon. Dans le fond, on mange pas juste des salades. Ah, » J'aime beaucoup la salade, mais c'est pas juste ça que je mange, tu sais.
Ben, je suis d'accord avec ça, puis c'est aussi de montrer que c'est pas si difficile que ça d'adopter ce mode de vie-là, je pense. Les gens ont peur, selon moi, du temps que ça prend. Donc, de se dire, mettons, je sais pas, aller à l'épicerie zéro déchet à la place d'aller à l'épicerie normale. Faut que je m'y rende, faut que je me déplace. Donc, les gens ont peur de ça, mais des fois, tu peux dire, bon, ben, je vais covoiturer avec des amis pour y aller. Puis, on va faire une grosse épicerie. Ouais, exactement. Ouais, c'est, ça donne l'occasion de discuter avec tes amis, puis de passer un bon moment avec eux. Puis, de moins penser à notre horaire qu'on minute, là, vraiment assez rigoureusement. Je pense que on pourrait terminer par notre question signature, exactement, qu'on pose à tout le monde. C'est quoi pour vous être un acteur de changement, un acteur ou une actrice de changement?
Ben, je pense que c'est un petit peu ça, t'sais, essayer d'inspirer les autres, de sensibiliser, puis sans, tu sais, là, on en parle beaucoup, là, mais sans imposer. Je trouve que c'est pas la façon qui est efficace pour encourager les autres. Mettons, on a parlé du végétariste, du zéro déchet aussi.
Je suis pas mal d'accord avec la vision Amy. Là. C'est rare les gens qui ont besoin de se faire brasser pour se faire obliger de changer de comportement. Ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. Puis aussi, c'est surtout que je pense qu'à long terme, l'approche bienveillante, c'est ça la plus gagnante, dans le sens que j'en ai plein des amis là, qui ont écouté des reportages chocs sur Netflix, puis là, ils m'ont dit « Ah, oh, à partir de maintenant, je mange plus de poisson, je mange plus de viande, je fais plus telle affaire, j'utilise plus jamais des pailles de plastique, il y a plein de choses de même. » Puis ça dure un certain temps, mais après ça, l'impact choc du documentaire s'est estompé, puis ils ont relativisé, puis ils se sont dit « Bon, c'est pas si grave que ça, finalement. » Fait que, tu sais, la motivation, elle venait pas tant que ça d'eux. C'était comme une pression extérieure à laquelle ils ont succombé. Fait que, dans le temps, je pense que c'est ça le plus efficace.
Exactement. Respecter un peu sa propre personnalité, ses limites, etc.
Ton rythme.
Ouais, exactement. Son rythme à chacun. Mm. Puis, en fait, en n'imposant pas nécessairement ce mode de vie-là aux autres, on leur donne aussi l'occasion de questionner ces choses-là, puis d'apporter des fois des idées bénéfiques à comment on voit les choses. Donc, je suis vraiment d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Florian et Amy, d'être venus aujourd'hui. C'était super intéressant.
Merci à vous. Merci
pour l'invitation. On vous souhaite une bonne continuité dans vos activités.
Merci.
Donc, merci à tous. Merci, bonne journée.